Comme toujours, chers amis, soyez les bienvenus ici chez vous, chez la salle virtuelle de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui, nous allons étudier le schéma initiatique. Nous allons en effet approfondir, chers amis, sur ce sujet pour savoir où se trouve ce schéma initiatique. L'initiation est ce schéma secret qui peut nous conduire des ténèbres à la lumière. C'est ce schéma secret dont on parle tous les peuples de l'Antiquité. Dans tous les livres sacrés, et c'est le chemin qui peut nous mener à la vérité qui est à l'intérieur de nous-mêmes. L'initiation est un ensemble de procédés que nous devons réaliser pour revenir, je le répète, revenir à cela qui n'a pas de nom, à cela qui n'a aucun rivage, ni aucune limite. La mission que nous tous avons, nous les êtres humains vivant sur cette planète, et n'importe où dans l'univers, est de nous perfectionner, nous autoconnaître, nous autoréaliser, c'est-à-dire développer de façon harmonieuse et positive toutes nos capacités et facultés internes. Et ce chemin s'appelle l'initiation, d'accord? L'initiation ne s'achète pas et ne se vend pas non plus. Et personne ne peut nous donner des initiations dans ce monde tridimensionnel, chers amis, dans ce monde physique. Alors, fouillons! Fouillons ces écoles qui veulent nous vendre ou nous donner des initiations ici dans le monde physique parce qu'elles ne sont pas authentiques. Elles ne sont pas véridiques. Car l'initiation se trouve dans notre vie même. Et l'initiation appartient à l'âme. D'accord? Non pas à notre corps physique, à notre véhicule physique, non pas à. Non plus à notre personnalité. C'est une chose qui appartient à l'âme. Alors, aucune école ici dans le monde physique peut aujourd'hui nous les donner. Parce que les véritables écoles initiatiques sont dans le monde supérieur il y a depuis beaucoup, beaucoup de temps. Bien sûr, l'initiation n'a rien de facile, chers amis. Tout le monde ne peut l'obtenir. Elle, n'est que pour les petits nombres. C'est pour cette raison que dans les Dhammapada, œuvre merveilleuse de Bouddha Sakyamuni, on nous dit « Parmi les hommes, peu sont ceux qui arrivent sur l'autre rive. Les autres marchent sur cette rive en courant d'un côté à un autre. » Dans le bouddhisme, on allégorise ce chemin menant à la vérité, à l'initiation, à un fleuve. Ceux qui se trouvent sur cette rive sont des personnes qui n'ont jamais rien fait pour se perfectionner. Elles vont d'un côté à un autre sans rien faire. Ceux qui sont passés sur l'autre rive, pardon, sont ceux-là qui se sont perfectionnés. C'est pour cette raison qu'il est dit, parmi les hommes, c'est-à-dire les êtres humains en général, peu sont ceux qui atteignent l'autre rive. Les autres, c'est-à-dire nous tous, nous autres, ne font que courir d'un côté à l'autre. C'est ce que déclare le Dhammapada, cette œuvre merveilleuse, avec les connaissances du maître Bouddha. Jésus de Nazareth nous dit aussi, des mille qui me cherchent, parmi ceux qui cherchent ce chemin à la perfection, au moyen, comme toujours, seulement, à travers la force du Christ représentée dans la Bible par le Maître Jésus de Nazareth. Le Maître Jésus nous dit, parmi ceux qui cherchent le chemin, des mille qui me cherchent, un seul me trouve. Des mille qui me cherchent, un seul me trouve. Ce qui veut dire que parmi tous ceux qui cherchent ce chemin, et ils ne sont pas nombreux à le faire, très peu le trouvent. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai dans un regard les chemins initiatiques. Les choses ne sont pas ainsi, mes chers amis. Le maître Jésus est très clair. Petit et étroit est ce chemin qui mène à la lumière, et ils sont très peu ceux qui le trouvent. Mais la grande porte, grandement ouverte, est le chemin qui mène à la perdition. Des mille qui me trouvent, c'est-à-dire des mille qui trouvent ce chemin initiatique, des mille qui trouvent ce chemin. Et il est très difficile à les trouver, parce qu'il existe beaucoup de théories dans le monde, c'est-à-dire beaucoup de distractions, beaucoup de labyrinthes inextricables, beaucoup de livres, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'auteurs nombreux, qui ne nous mènent nulle part, nulle part. Eh bien, le maître Jésus nous dit, des mille qui me trouvent, un seul me suit. Un seul emprunte ce chemin véritablement, avec discipline, avec décision, avec courage, parce que nous sommes nombreux à dire que nous nous trouvons sur ce chemin, mais nous n'y faisons rien pour les vivre. Des mille qui me suivent, c'est-à-dire des mille qui suivent ce chemin, un seul est mien. Vous vous rendez compte? Réellement, il y a très peu ceux qui trouvent ce chemin, et encore bien peu sont ceux qui les pratiquent, qui les vivent. Et parmi ceux qui les vivent, très peu sont ceux qui arriveront au but. Krishna nous dit exactement la même chose dans le Bhagavad Gita, le chant du Seigneur. Parmi mille hommes, peut-être un seul essayera d'arriver à la perfection. Et parmi ceux qui essayeront, il est possible qu'un seul y arrive. Et parmi ceux qui sont arrivés à cette perfection, peut-être un seul me connaît parfaitement. Ainsi, ce chemin n'est pas destiné à tout le monde. Il ne faut pas s'imaginer qu'en entrant dans cet état gnostique ou être dans une religion quelconque, dans un groupe philosophique, dans une secte ou dans n'importe quel groupe, nous avons réussi, nous avons atteint notre but. Nous sommes sur ce chemin initiatique. Non. Les grands maîtres du passé sont très clairs à ce sujet et il est important de commencer avec ces sujets. Les plus grands initiés tels que Bouddha, Jésus le Christ ou Krishna, et tous les trois sont d'accord, ce chemin n'est pas destiné à tout le monde. Ce chemin n'est que pour les petits nombres. Ce chemin est le chemin de l'initiation. Et je le répète, c'est le chemin vers la vérité, vers la réalité qui est à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Cette initiation, c'est de surpasser soi-même. C'est lutter contre ses défauts, ses propres défauts psychologiques. C'est en finir avec toutes ces mauvaises habitudes que nous avons. C'est aider les gens, aider les autres, nous sacrifier pour eux. C'est savoir que ce chemin signifie comprendre que nous faisons tous partie d'un même être, d'une même famille. Les Mayas déclarent parfaitement « In lak esh » et la Ken. Tout est moi et je suis toi. Ce schéma, c'est comprendre que toute l'humanité est, je le répète, une grande famille. Comprendre que nous sommes tous imparfaits, qu'il ne faut pas chercher les défauts des autres, mais les chercher en soi-même. Voilà. Tout cela fait partie du schéma. Tout cela est le schéma. Ce schéma a été étudié dans toutes les cultures pendant leur période d'or. L'âge dehors. Chez les Incas, chez les Mayas, chez les Tibétains et aussi chez les Égyptiens, ils connurent et eurent l'enseignement. Ce chemin fut étudié sous les portiques des temples et dans les pyramides millénaires. Chez les Incas également, ce chemin était étudié dans tous ces peuples. Ce chemin qui mène à la vérité. Ce chemin de la autoréalisation intime de l'être. C'est le chemin initiatique. Et il y avait bien sûr des preuves, des preuves pour que les aspirants prouvent qu'ils étaient prêts à avancer dans l'enseignement, dans les connaissances plus profondes, plus sacrées. Cette connaissance était donnée à ceux qui la méritaient et qui avaient un moral capable de recevoir un enseignement en l'accougeant et non pas en la piétinant, ou en la détruisant, en la modifiant, en l'adultérant. Dans d'autres temples, à d'autres époques, du temple des pharaons, les aspirants étaient mis à l'épreuve physiquement. Et encore même à notre époque, dans cette Égypte des pharaons, les aspirants continuèrent à être éprouvés. Ils sont les plus éprouvés physiquement, mais ils continuèrent à avoir des épreuves, d'accord? Il en est les mêmes dans les sons sacrés mayas, chez les Chandians Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, ainsi qu'à Machu Picchu, et dans toutes les sons merveilleuses du monde. Ils ont des écoles initiatiques et ils ont des lieux sacrés pour avoir cette épreuve pour les débutantes. Eh bien, dans le passé, à l'époque de l'Égypte des pharaons, les épreuves physiques que l'on donnait aux candidats étaient terribles et étaient au nombre des quatre principales. C'est un peu comme ces petites épreuves que l'on vous donne lorsque vous demandez du travail. Un peu de boire si vous êtes capable de faire ce travail. Si vous êtes apte à travailler, si vous avez la responsabilité, la discipline, etc. On vous teste durant au moins un mois. Donc, les premières petites épreuves que l'on donne pour les schémas initiatiques sont les quatre épreuves des quatre éléments. Et ces quatre épreuves n'étaient données que pour tester et quantifier la morale du candidat de manière terrible, véritablement. Mais c'est les premières d'erreurs, les premières passes. Eh bien, les morales, la détermination doivent être qualifiées, doivent être mesurées. Parce que ce schéma n'est pas pour tout le monde, n'est pas pour n'importe qui. Parce que l'on a besoin de personnes très qualifiées pour ce mystère, pour cet enseignement. Ce schéma n'est pas pour tout. Il faut mesurer la spiritualité de l'aspirant. Il faut qu'il y ait un véritable désir pour cet enseignement. Qu'il fasse preuve d'une véritable fidélité pour cet enseignement. Qu'il y ait une volonté d'agir pour faire les pratiques. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce dont on a besoin. La morale doit être mesurée parce qu'il faut montrer un véritable amour pour la cause, pour avoir droit au mystère. Voilà à quoi servent ces épreuves des quatre éléments. Du temps du pharaon en Égypte, ces épreuves étaient physiques. Dans l'épreuve de feu, l'aspirante à l'initiation devait marcher sur une poutre d'acier, une acier chauffée à blanc, et dans un endroit où il pouvait à peine passer un pied. Il devait faire preuve d'une grande sérénité et d'un très grand calme pour pouvoir passer avec succès cette épreuve du feu, et n'ayant les dangers de tomber et de mourir physiquement. Ces quatre épreuves sont en relation avec les quatre éléments principaux de la nature, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces quatre éléments de la nature sont en étroite relation avec de nombreux aspects dans la vie de l'être humain. Par exemple, les signes zodiacaux sont associés aux quatre éléments de la nature par les tempéraments. Il y a signes zodiacaux qui sont associés au feu, qui sont associés à l'eau, ou à l'air, ou à la terre. La nature entière est faite en accord avec ces quatre éléments. Il y a organisation partout. Il y a des élémentaux, des créatures habitant dans les éléments de la nature. Il y a ces créatures, ces élémentaux du feu, appelés les salamandres, des élémentaux de la nature, créatures innocentes, de l'air, qui sont appelés les sylphes et les sylphides. Il y a des élémentaux de la terre, qui sont les pygmées et les gnomes, créatures magiques. Et dans l'eau, il y a les ondines et les néréides. Les quatre éléments se trouvent dans toutes choses. Il faut apprendre et comprendre cela. Alors, nous avons dans la sangle le feu. Nous avons une température, n'est-ce pas? Il y a de l'eau à l'intérieur de nous-mêmes, il y a de la terre dans nos os pour la force, pour nous soutenir, etc., etc. Les épreuves des quatre éléments sont donc en relation avec le feu, l'eau, l'air et la terre. L'épreuve de feu chez les Égyptiens est celle que nous venons de voir. Elle est importante de connaître pour voir quel aspect de notre vie et de notre morale ou tempérament sont éprouvés. Dans l'épreuve de l'air, on plaçait l'aspirante devant un précipice, et là, il devait supporter, en étant suspendu par un cord, des ventes puissantes, des ouragans terribles. Dans l'épreuve de l'eau, on plaçait l'aspirante dans un bassin avec des crocodiles, et l'aspirante devait connaître des paroles magiques, des exorcismes, et beaucoup d'autres choses, pour nager dans ce bassin plein de crocodiles. S'il échoua, il mourait. Alors, il devrait sa savoir les enchantements et d'avoir aussi la sérénité pour les chanter et passer ses bassins. Dans l'épreuve de la terre, on plaçait l'aspirant dans un temple à l'intérieur d'une pyramide et on le laissait là sans rien lui dire. Et on le laissa longtemps. Puis, soudain, les murs qui l'entouraient commençaient à bouger et à rapprocher à lui. Les murs se rapprochaient par des mécanismes spéciaux, et si l'aspirant pleurait, criait ou s'il avait peur, s'il était désespéré, l'épreuve se terminait et on le mettait dehors en lui disant qu'il n'était pas fait pour suivre les chemins. Ce chemin de l'initiation n'était pas pour lui. Désolé, mais c'est la réalité. Il ne pouvait donc pas entrer dans les mystères, dans les temples de la pyramide d'Égypte. Ces quatre épreuves n'étaient pas faites pour que l'on prouve qu'on était un homme ou enfin véritable, un homme viril et fort physiquement. Non. Mais pour mesurer les morales de l'aspirante, du candidat, d'accord? Alors, la force physique n'est pas prouvée ici, n'est pas l'importante, mais la force, la force morale. Toutes ces épreuves existent de nos jours et elles n'ont pas disparu. Ces épreuves se trouvent dans la vie même. Et rare est celui qui sortira victorieux de celle-ci. Ce qu'il se passe le plus souvent, c'est que nous échouons dans la vie. L'initiation, alors, est la vie même. Nous n'avons pas besoin d'aller au Tibet, par exemple, pour recevoir une initiation. Non, non et non. Bien que vous pensez, chers amis, que les prêtres au Tibet sont spéciaux ou pas, l'initiation n'est pas là. Votre initiation est votre vie même, telle qu'elle est aujourd'hui. De nombreuses personnes pensent qu'en allant dans un certain endroit, en entrant dans une tribu, il recevra une initiation, pas du tout. Elle se trompe complètement. Et il y en a même qui pensent qu'avec des herbes hallucinogènes, ils vont recevoir l'initiation. L'unique chose que nous arrivons à faire avec cela, c'est d'abîmer notre organisme et nous perdre. Et bien sûr, nous ne recevrons aucune initiation, chers amis, parce que, je le répète, l'initiation, c'est la vie même, celle que l'on vit tous les jours. Ce n'est pas avec un chaman, un guérisseur ou une personne qui nous entoure de fumée, qui prononce des mots magiques, apparemment, que l'on va recevoir l'initiation ici dans le monde physique. Non, bien sûr que non. Je le répète. Si vous pensez que oui, si vous êtes. Si vous voulez payer des mille et mille de dollars pour cela, eh bien, c'est votre décision. Mais l'initiation n'est pas là. L'initiation ne se passe pas comme cela. Beaucoup ont des idées fausses et des a priori sur l'initiation. L'initiation, c'est apprendre à vivre. Je le répète. L'initiation, c'est apprendre à vivre. C'est dans notre existence que se trouve l'initiation, le schéma initiatique. C'est dans les problèmes que nous rencontrons chez nous que tout au long de notre vie. C'est dans nos difficultés, dans le travail ou à l'école que se trouve l'initiation là-bas. Les épreuves des quatre éléments nous sont données à chaque instant dans la vie. Ce sont les mêmes que l'on donnait à l'époque des pharaons dans l'ancienne Égypte. La même chose qui s'éprouve. Marcher sous des poutres en acier chauffé au blanc, suspendu dans un précipice par une corde seulement, en supportant des vents violentes, placé dans un bassin rempli de crocodiles, et se retrouver entre deux murs qui se rapprochent et qui vont nous écraser. Ces épreuves existent aujourd'hui. Mais maintenant, ces épreuves se passent dans notre vie de tous les jours. Nous les avons en vivant dans notre famille, dans les divers problèmes que nous rencontrons, dans les adversités que nous avons dans la famille, au travail ou avec des autres personnes, dans la rue, à l'école, etc., etc. Et c'est important de l'expliquer. Ce n'est pas en fuyant de la maison ou en arrêtant de travailler, comme beaucoup le pensent, que nous entrerons sur le chemin de l'initiation. Ce n'est pas en laissant tout tomber et entrant dans l'arnos. Non. L'arnos, c'est la vie intensément vécue. Là-bas est l'arnos, dans la vie. Ce n'est pas en fuyant dans un endroit solitaire, dans une île déserte, ou dans son grotte, que nous allons arriver à l'initiation. Penser cela n'est que pure fantaisie. Penser cela est vraiment ridicule. Ridicule, désolé. C'est comme l'adolescente qui ne supporte plus ses parents et qui veut être libre, qui veut fuir l'autorité de ses parents et qui pense à tort qu'en partant de la maison, il va régler tous ses problèmes. Il s'en va de chez lui et puis après, qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, il faut qu'il paye un loyer, il faut qu'il se paye de quoi manger, de quoi s'habiller, et il se rend compte finalement que ce n'est pas sans une solution. Beaucoup pensent à tort qu'en se libérant de l'autorité de leurs parents, ils vont être heureux. De même, nous sommes nombreux à penser que nous obtiendrons l'initiation et nous retirons dans son route ou dans la forêt, dans la solitude. Non, non, non. Chers amis, nous devons savoir et comprendre que l'initiation est la vie même, mais on vit intensément vécue. Il faut se confronter aux problèmes de la vie et ne pas les fuir. Il faut attraper les taureaux par les cornes et profiter intensément de notre existence. Et alors, oui, nous pourrions alors être candidates à sérieux à l'initiation. La maîtresse Elena Petronila Blavatsky est très claire dans son livret La voix du silence. Elle nous dit, attention, ne pense pas qu'en vivant dans des forêts sombres, dans un retrait orgueilleux et en étant éloigné des hommes, ne crois pas toi qu'en t'alimentant seulement d'herbes et de racines, et en te désaltérant avec de la neige fondue de la grande cordillère, ne crois pas toi, dévote, que tout cela pourra te conduire juste au but de la libération finale. Ce n'est donc pas en fuyant ou en disant ah, si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais me dédier entièrement à l'arnose. Si je ne travaillais pas, ah, comme j'ai horreur de temps, de bien tout dire et de me consacrer entièrement à l'enseignement gnostique. Pourquoi fait-il que je travaille et que je travaille sans cesse tous les jours de ma vie? Pourquoi, oh mon Dieu? Non, chers amis. Les jeunes eux aussi ont des fantaisies ridicules. Ils pensent, quand je serai ingénieur, quand je travaillerai, quand je serai médecin, eh bien, je pourrai me dédier à l'enseignement gnostique complètement, oui. Aujourd'hui, désolé, mais je dois aller à l'école, mais quand je serai médecin, eh bien, je pourrai me dédier. D'autres disent aussi, quand je me marierai, lorsque j'aurai mon conjoint, alors, main dans la main, ensemble, nous laisserons à la conquête de l'être. Penser cela est complètement fantaisiste. Non, mes amis, le chemin n'est pas dans le futur, le chemin se trouve ici et maintenant, dans cet instant présent, là où nous sommes, comme nous sommes, malades ou bien portantes, avec de l'argent ou sans argent, avec maison ou sans maison, mariés ou célibataires, vieux ou jeunes, cela n'importe, l'initiation est là. Aujourd'hui, dans ce moment. Le chemin est ici et maintenant. Même lorsque nous travaillons 10 heures ou plus par jour, ou même sans avoir de travail, peu importe. De toutes les façons, le chemin de l'initiation se trouve ici et maintenant, en cet instant précis. Nous devons posséder certaines vertus, avoir un certain moral. C'est pour cette raison que notre morale est mesurée avec ces quatre preuves. Heureusement, les sphinx millénaires, ces sphinx merveilleuses, ainsi que tous les sphinx trouvés en Égypte et aussi au reste, nous indiquent clairement les chemins à suivre. Ils nous montrent la règle à suivre et les conditions requises. La morale doit être mesurée. Et nous devons sortir avec succès de ses preuves pour recevoir les mystères, pour pouvoir entrer véritablement dans l'arnos, dans l'enseignement. Mais nous devons les mériter, et nous devons démontrer que nous les méritons, que nous sommes sérieux pour les recevoir et responsables. Nous pouvons passer toute notre vie à écouter des conférences, mais nous devons avoir les caractéristiques du sphinx pour être des véritables étudiants gnostiques. Nous sommes pour l'instant des simples aspirants à l'arnose. On pourrait même dire que nous ne sommes pas que nous ne sommes que des sympathisants de l'arnose. Car un véritable étudiant gnostique est celui dont on a déjà mesuré la morale. Déjà. Cette morale se mesure à chaque moment de notre vie, face à chaque problème que nous rencontrons dans notre existence, à chaque difficulté que nous avons dans la vie. Quand nous devons payer un loyer, et que nous n'avons pas les moyens de le faire. Lorsque nous avons un accident et que nous devons débourser beaucoup d'argent, lorsque nous tombons malades, que nous ne savons pas quoi faire à la perte d'un travail, c'est précisément à ce moment-là que nous devons démontrer que nous sommes des aspirantes à l'enseignement et faire ces problèmes et les surpasser et être serein. De toutes les façons, les problèmes seront toujours, toujours là. Ils existeront toujours. Ils existent, non pas parce que nous sommes gnostiques, d'accord? Non, tout le monde rencontre des problèmes, mais ils sont bien gérés s'ils sont sagement gérés. Alors, nous pourrons entrer sur le chemin de l'initiation véritablement. Le sphinx a justement ces quatre éléments. Nous observons ici un sphinx grec, voyons. Il a une tête humaine, n'est-ce pas? Les ailes d'un aigle, les thorax d'un lion, bout de face et les griffes d'un lion. Et son corps restant et ses pattes de derrière sont celles d'un taureau. Eh bien, c'est la représentation, c'est le symbolisme, d'accord? C'est très symbolique parce qu'il représente les vertus que doit avoir le lanu. Le mot lanu, en sanskrit, signifie disciple, dévotante. Donc, le lanu ou disciple doit réunir les vertus du sphinx parce que ces vertus nous permettent de passer les épreuves des quatre éléments avec succès. Les ailes d'aigle, de l'aigle, représente l'élément air. Les flancs du taureau représentent l'élément terre. La griffe du lion ainsi que son torse doré représentent l'élément feu. L'élément igni, et le visage humain symbolise l'élément eau. Voilà donc les quatre éléments représentés dans le sphinx millénaire. On ne trouve pas ces symboles seulement sur les sphinx. On les retrouve aussi dans les églises anciennes. Attention. On peut observer, en effet, à l'intérieur des coupoles, les quatre évangélistes. Alors, ces quatre évangélistes sont en étroite relation avec les quatre caractéristiques du sphinx. Lucas, par exemple, est toujours représenté avec un taureau qui est l'élément terre. La terre régénérée, la terre de demain, la terre sacrée. Marc, avec son évangile, est toujours représenté avec un lion. À ses côtés qui symbolise l'élément feu, l'élément igni. Matthieu est toujours représenté à côté d'un ange qui symbolise le visage du sphinx, l'élément eau. Et Jean l'évangéliste, est toujours représenté avec un aigle qui symbolise l'élément air. Voilà les quatre caractéristiques du sphinx que nous devons posséder et représenter dans le christianisme. Ce ne sont pas les théories qui vont nous aider. Les théories sont comme les mauvaises herbes, qui poussent n'importe où et partout. On nous dit d'être végétarien. D'autres nous disent qu'il ne faut pas l'être. On nous dit qu'il faut faire des exercices de respiration, qu'elles sont très importantes. D'autres nous soutiennent le contraire. Nous sommes alors complètement perdus et ne sachant plus quoi faire. On nous dit tout et son contraire et nous sommes perdus dans tous les labyrinthes de théorie. Ce labyrinthe existant il y a longtemps dans les temples des mystères, labyrinthe physique. Comme le fameux labyrinthe de la Crète où se trouvaient les Minotaures. Ce labyrinthe existant toujours aujourd'hui. Nous les retrouvons, mais ce sont toutes les théories qui sont là pour nous confondre, pour rendre difficile de trouver le chemin. La plupart d'entre nous restons dans les labyrinthes, dans les théories, en comparant, en lisant ici et là. Et ce sont les labyrinthes de la théorie. Quelques instructeurs nous recommandent de faire quelque chose, les autres instructeurs nous recommandent de faire le contraire. Voilà les labyrinthes de théorie aujourd'hui. Et malheureusement, nous restons là. Peut-être toute notre vie, en lisant une théorie intéressante, en lisant une autre théorie intéressante, etc. Et là, nous perdons des années, nous perdons des vies entières. Dans la vie pratique, nous sommes rien. Bien que nous allons avons lu beaucoup de livres. Dans la vie pratique, nous ne sommes rien. Nous continuons à discuter, nous continuons à vivre des milliards de choses dans la vie, nous continuons à avoir des milliards de problèmes, nous nous marions, nous divorçons, nous avons des problèmes de tous les côtés, parce que nous sommes dans les théories et elles ne conduisent à rien, à aucune vérité, ni aucune réalité. Alors nous continuons d'avoir les problèmes, les situations difficiles, parce que nous ne changeons pas à l'intérieur de nous, parce que nous restons dans les labyrinthes de théories. C'est ainsi malheureusement. Eh bien, nous avons besoin d'avoir les riffs du lion, d'accord? Dans notre vie. Voilà ce dont nous avons besoin. Elles sont les symboles du Sphinx. Les riffs du lion représentent l'élément feu, la force, oui, mais la force spirituelle, la foi. Non pas la force physique, matérielle, musculaire, non. Nous avons besoin des forces spirituelles, car c'est cette force spirituelle qui peut nous permettre d'être serein, d'avoir une sorte de caractère devant les diverses circonstances de l'existence, devant les circonstances difficiles de la vie. Il faut avoir les caractéristiques du lion. Oui, le lion s'intègre et fort, et nous devons être comme lui. Mais non seulement cela, nous devons aussi être serein et avoir une sorte de caractère. Imaginez, on arrive très fatigué au travail, après de longues heures de travail et après avoir subi de multiples difficultés durant la journée. La maison, nous arrivons à la maison, chez nous, et la maison est désordre, le repas est froid, n'est pas prêt, le ménage n'est pas fait. Imaginez que nous sommes bloqués dans notre voiture, en plein embouteillage, avec du bruit partout. Les transports communautaires à notre ville ne fonctionnent pas et nous sommes en retard, etc., etc. C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement là, dans ce moment, là, que l'épreuve est donnée à l'étudiant. C'est dans ce moment-là que nous pouvons prouver que nous sommes des véritables étudiants gnostiques et que nous sommes prêts. C'est le moment d'utiliser les riffs du lion, en restant serein et d'avoir la force spirituelle pour ne pas nous laisser tomber dans les situations que nous trouvons tous les jours. Nous avons la force spirituelle du lion, le courage du lion et nous restons sereins. Mais avoir aussi et en plus, un douceur de caractère. C'est l'épreuve du feu. C'est facile, chers amis? C'est facile? Est-ce que nous sommes prêts? Allons, soyons sincères. Nous sommes prêts? Comme vous le voyez, l'épreuve du feu nous est soumise tous les jours. Et un des défauts psychologiques qui nous empêche de passer avec succès cette épreuve, c'est la colère. Imaginons que nous sommes en face de quelqu'un qui nous insulte, qui nous agresse, qui nous fait de l'ironie à notre dépend, qui se moque de nous. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas se défendre hein, s'il est nécessaire. Non, il faut se défendre quand c'est nécessaire. Mais, bien sûr, on pourrait mieux se défendre si on avait cette force spirituelle, si on restait serein. Si on ne s'identifiait pas avec les paroles de celui qui nous insulte, si on réussissait à rester serein avec une douceur de caractère, parce qu'alors nous aurons la clarté mentale pour surpasser cette épreuve, cette situation, pas en réagissant avec colère, seulement comme des bêtes, mais non, mais avec l'intelligence, d'accord? C'est très difficile. Oui. N'importe qui peut le dire. Rares sont ceux qui restent sereins devant quelqu'un qui les insulte. Imaginons encore que nous voulons aller visiter les zones archéologiques. Nous avons peut-être la possibilité d'aller à Machu Picchu ou à l'Égypte ou à la zone archéologique maya, par exemple, Chichen Itza, etc. Nous avons tout préparé, nous avons sauvé de l'argent pour aller, mais un peu avant d'acheter les billets de l'avion, les tickets de l'avion, quelque chose se passe et notre projet est impossible, devient impossible. Nous devons pas dire quelque chose, etc. Nous perdons l'argent, nous avons un petit accident, et tout va bien, mais nous perdons la possibilité d'aller. Alors nous ressentons une frustration et une déception immense, immense, terrible. Et bien sûr, peut-être, c'est naturel, ce n'est pas. Nous ne devons réagir avec colère, mais nous finissons par les sentir. Et voilà, l'épreuve du feu est un échec. C'est comme ça. Tout cela fait que nous ne sommes qu'un morceau de bois, des plumes flottantes dans les mers furieuses de la vie. Nous voyons d'un côté à l'autre dans les courants de notions océans furieux. Nous ne sommes pas alors des candidats pour l'initiation parce que nous laissons que la vie s'impose à nous. Il faut que nous triomphons dans ces épreuves sur les champs de bataille de la vie quotidienne. Oui, je la répète, la vie quotidienne, c'est un champ de bataille. Il est les jeux de la vache et les mayas représentés dans notre vie. Le terrain des labeurs religieux où on luttait contre les puissantes des forces du mal et qui aujourd'hui sont partout dans notre vie. Le chemin initiatique n'est pas autre part, il se trouve dans notre vie. C'est là où nous sommes retestés. C'est là où l'aspirant est testé. C'est là que nous devons démontrer de la tempérance et de la force. C'est à ces moments-là qu'on arrive à avancer dans la conquête de soi-même. C'est là, dans la vie quotidienne, pas dans notre fantaisie d'aller à une route ou à un île vide, un île perdue, que nous devons réussir cela. Nulle part ailleurs. Nous devons réussir cela dans la relation avec nos semblables, aussi difficile qu'elle soit. Si quelqu'un nous critique, normalement nous nous mettons en colère et nous insultons à notre tour. Nous devons apprendre quelque chose de très étonnant selon les principes gnostiques. Si on nous critique et si on nous dérange, savez-vous ce qu'il se passe en réalité? Si nous nous mettons en colère, c'est que nous avons justement les défauts et nous que l'autre nous critique. Si ce n'était pas le cas, nous ne nous mettrions pas en colère. Et si nous critiquons quelqu'un et lui reprochons un défaut, c'est que nous avons et nous-mêmes ces mêmes défauts que nous critiquons. Alors, les autres sont les reflets de nous-mêmes. Et pour cela, c'est que nous avons besoin de rester en communauté, de profiter de chaque moment, de chaque expérience en relation avec les gens. Nous devons avoir bien à l'esprit, ces deux points importants dans le gymnase de la vie quotidienne, dans la relation que nous avons avec nos semblables. Si dans notre travail nous avons un patron insupportable qui nous tyrannise et qui nous met très en colère, en nous critiquant toujours, il faut se dire que cette critique qu'il nous fait et qui nous met en colère est bien présente en nous-mêmes. Oui, nous possédons ces défauts que l'on nous critique en nous-mêmes si nous tombons en colère. Si nous ne l'avions pas, nous ne nous mettrions pas en colère. Que m'importe qu'elle dise que je suis un voleur. Je ne le suis. Je le sais, je ne le suis. Je ne le suis pas. Mais s'il y a des moi psychologiques voleurs à mon intérieur, alors, c'est vous dire que oui, j'ai cette tendance d'être voleur. Eh bien, et puis, ces critiques que nous faisons à notre patron, c'est que nous lui disons ou nous lui reprochons ce qui nous énerve en lui, eh bien, cela veut dire que nous l'avons, ces mêmes défauts psychologiques, de façon importante, en nous-mêmes. Ce qu'il nous faut, c'est de développer l'auto-observation psychologique pour les trouver en nous-mêmes, pour les découvrir en nous-mêmes. Si nous nous énervons autant, si nous nous identifions autant, nous n'arriverons jamais à passer l'épreuve du feu. Si nous nous mettons en colère, si nous nous énervons à cause de tout ce que l'on peut dire de nous, eh bien, nous ne serons pas des candidats à l'initiation. Toutes les fois que nous nous identifions à cette circonstance désagréable de la vie, toutes les fois que l'on s'énerve et que l'on se met en colère, nous gaspillons une grande quantité d'énergie, une énergie qui pourrait nous servir pour de nombreuses choses, d'énergie émotionnelle, d'énergie intellectuelle. Là, nous la gaspillons. Tel que nous sommes en ce moment, nous sommes un véritable échec. Si nous n'arrivons jamais à passer ces épreuves que nous donne la vie, nous n'entrerons jamais de jamais sur les sentiers de l'initiation. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Nous devons éliminer Le mois de la colère, si nous voulons réussir, l'épreuve du feu. Tant que nous possédons un deuxième mois de la colère, le mois psychologique de la colère, avec toutes les ramifications qu'il possède, nous n'allons jamais pouvoir entrer sur le chemin de l'initiation. Celui qui désintègre le mois de la colère avec le mois de l'impatience, le mois criard, le mois cogneur, le mois qu'insulte, et toutes ces facettes, eh bien oui, celui qui réussit cela pourrait devenir un disciple véritable de la blanche humanité. Il pourrait être un véritable lanou, un vrai disciple de la loge blanche. La loge blanche est un ensemble de maîtres autoréalisés tels que Jésus, Quetzalcoatl, Bouddha, Hermès, Zoroastre, Krishna. Pour être un disciple de la loge blanche, nous devons travailler à tout cela. Lorsque l'on triomphe dans les activités journalières, lorsque nous réussissons à rester sereins, en toutes circonstances, dans notre famille, au travail, devant toutes les difficultés de la vie, avec des problèmes économiques et dans des circonstances vraiment très difficiles, cela se reflète dans le monde supérieur. Quand nous faisons ici, dans le monde physique, les choses correctement, lorsque l'on passe ces épreuves ici, dans le monde physique, alors tout ce que nous faisons et avons fait se reflète dans le monde supérieur, bien sûr. Parce que dans le monde astral, dans les cinquièmes dimensions, l'épreuve aussi nous est soumise. Elle se passe ainsi. Si on rêve que l'on est poursuivi, injurié, insulté, et si dans le monde astral on réagit avec colère, l'épreuve sera un échec. Cela voudra dire que dans le monde physique, nous n'avons pas été suffisamment sereins à notre intérieur. Nous devons alors travailler encore plus intensément sur les mois de la colère ici et maintenant pour arriver à obtenir les griffes du lion en parlant spirituellement. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous devons avoir les griffes du lion, mais nous devons aussi avoir les ailes de l'aigle. Les ailes de l'aigle représentent la mystique transcendantale, la spiritualité transcendantale, vraie, naturelle, profonde. Il ne s'agit pas de comme le dit le maître Jésus, de faire une tête de martyr lorsque vous jeûnez en disant jejeûne depuis quelques jours. Non. Sois propre sur toi, arrange ta tunique, peigne-toi et porte-toi bien, que personne ne se rendra compte que tu es en train de déjeuner. Toutes ces choses que nous faisons ne servent à rien. La véritable spiritualité transcendante est différente. Elle n'est réussie que lorsque l'on comprend le matérialisme grossier, le matérialisme dans lequel, malheureusement, toute l'humanité se trouve empêtrée de nos jours. Nous vivons tous dans un matérialisme afférent. Le matériel est nécessaire et personne ne dit le contraire. Les choses matérielles sont utiles. Nous avons besoin d'une maison pour vivre. Nous avons besoin de vêtements pour couvrir notre corps. Nous avons besoin de l'aliment pour nourrir notre corps. Personne ne nie cela, bien sûr. Une chose très différente est cet attachement que nous avons pour le matériel, ce désir démesuré que nous avons pour les choses matérielles qui nous fait oublier justement les spirituels. Tant que nous serons et resterons attachés aux choses matérielles et toute personne, nous ne pourrons pas réussir cette épreuve de l'air. Il faut comprendre ce que nous disons ici, en ce moment, chers amis, parce que l'ego nous joue toujours des tours dans notre mental. Certains diront, comment? Il ne faut pas être attaché aux personnes. Il ne faut plus que j'aime ma grand-mère, que j'aime beaucoup. Cela voudra dire qu'être agnostique, c'est qu'on ne doit pas l'aimer. Personne ne dit cela. Attention. L'amour est vraiment quelque chose de merveilleux, extraordinaire. L'amour véritable est la force qui nous permet d'entrer dans l'initiation, oui. Mais l'amour n'est pas du tout des attachements. D'accord? Je le répète. L'amour véritable n'est pas du tout de l'attachement. L'attachement est bien différent. L'attachement que nous avons avec une personne est souvent d'ordre économique. On pense qu'on l'aime, mais non. C'est cet attachement à cause de ce qu'elle nous donne. Un jeune adulte, par exemple, dont les parents taillent les études, son loyer, ses vêtements, sa nourriture, sera peut-être attaché à ses parents à cause de tout cela. Mais si un jour les parents ne peuvent plus faire cela, pailler partout, Parce qu'ils ont perdu leur travail, ils sont ruinés. Est-ce que ses fils continuera à laisser mère ou tante de la même manière? Si en effet, il continue à laisser mère, n'importe quel pas qu'il se passe, eh bien, ce sera véritablement la mort. Mais s'il oubliait ses parents parce qu'ils ne servent plus à rien, parce que les parents ne peuvent plus lui donner de l'argent, alors c'était de l'attachement. Il faut donc détruire les attachements, découvrir premièrement les attachements que nous avons aux personnes ou aux choses, pour qu'apparaisse la véritable amour pour ces personnes, sans attachement d'aucune espèce. Il faut savoir avoir une bonne relation avec les choses matérielles, avec les choses physiques, avec les choses tridimensionnelles. Il faut apprendre à les utiliser avec sagesse, mais ne pas ressentir des attachements pour elles. Nous ne serons jamais contre les choses matérielles, et jamais non plus contre l'amour. Jamais. Nous avons besoin de l'amour pour avancer sur ce chemin ésotérique, sur ce chemin initiatique, je le répète. La clé se trouve dans l'amour. Mais l'attachement, c'est très bien une autre chose. L'attachement, c'est de l'égoïsme. Un égoïsme absurde, n'étant que l'extension de l'amour propre. Nous voulons tout avoir, et quand nous pensons à mère, quelqu'un, c'est un fait que cette personne n'est que le reflet de nous-mêmes. Obtenir quelque chose d'elle. Elle nous aime, elle fait attention à nous, elle nous protège. Nous obtenons quelque chose d'elle. Pourquoi de nombreuses épouses, avant que leur mari ne parte à la guerre, sont-elles tellement attentionnées? Parce qu'elles sentent le danger. Elles ne veulent pas les perdre. Elles voient le danger être en pur. Que leur mari disparaît pour toujours. Pourquoi est-ce que c'est précisément lorsqu'ils vont partir à la guerre qu'on les aime le plus? Parce que l'attachement est bien différent de l'amour. On a demandé souvent à des femmes, attention, pourquoi aimes-tu ton fiancé? Elles nous répondent presque toujours, eh bien, parce qu'il m'aime, il fait attention à moi, il m'offre des chocolats. Ou des fleurs. Il m'écrit des poèmes. Vous voyez? Elle ne parle que d'elle-même. Et nous sommes tous comme cela. Pareil. Elle ne parle jamais des qualités de leur fiancé, de son calme. Ils ne voient pas, ils ne font pas. Non. Elles répondent parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'offre des chocolats. Il fait attention à moi. Eh bien, nous les hommes, nous sommes. Pareil, j'aime ma femme parce qu'elle m'aime, parce qu'elle me donne ceci ou cela. À ce moment-là, nous n'aimons pas l'autre, nous nous aimons nous-mêmes. C'est une extension de l'amour propre. Beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'attachement, et cela nous éloigne de l'initiation. Cela nous éloigne du chemin initiatique. L'attachement, je le répète. L'amour, lui, est bien différent. Paul de Tarse nous dit, c'est un renoncement total. L'amour, c'est un renoncement total. C'est un pardon total. C'est faire tout pour la personne qu'on aime et ne rien garder pour soi. Voilà le véritable amour. L'amour, c'est le désintéressement complet. Et il ne faut pas le confondre avec l'attachement. Les choses matérielles sont bien sûr nécessaires, mais il doit y avoir un équilibre entre la matière et l'esprit. Arrêter de travailler pour suivre un chemin spirituel, c'est du fanatisme, c'est de l'ignorance. Nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin d'avoir un toit pour vivre, nous avons besoin d'avoir de quoi nous vêtir, et cela ne s'obtient qu'en travaillant. C'est la vie moderne. Il faut qu'il y ait un équilibre. Malheureusement, à l'époque où nous vivons actuellement, nous avons complètement oublié l'esprit, la partie spirituelle de notre vie, et nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Il faut apprendre à utiliser les choses matérielles sans s'attacher à elles. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que nous apprenions à vivre. Nous sommes très attachés aux choses et aux personnes qui nous entourent, mais il faut apprendre à aimer les personnes et apprendrez à donner une juste valeur aux choses matérielles. Leur donner la valeur qu'elles sont réellement. Nous pourrions apprendre à vivre en aimant nos semblables sans attachement égoïste. Les attachements nous lient au monde de la matière. Ils nous empêchent de voler sur les hauteurs des grandes montagnes de la spiritualité. Nous devons détruire toutes ces chaînes. Nous devons être comme l'air qui passe partout, qui ne se retient pas, qui ne s'attache pas, qui ne s'arrête pas. Voilà ce que nous montre l'épreuve de l'air. C'est difficile. Il faut apprendre, encore une fois, apprendre à vivre. Il ne s'agit pas de postes mystiques, ni de donner des noms pampants. Je suis initié. Dans mes vies antérieures, j'étais un tel ou un tel. J'ai fait ceci ou cela parce qu'un prêtre de la maçonnerie me l'a dit. Lorsque j'étais sous les fumées de cette herbe sacrée. Non, mes chers amis, ce ne sont que des bêtises. L'initiation, c'est apprendre à vivre notre vie intensément, telle qu'elle est aujourd'hui. Cher instructeur, il est difficile pour moi parce que, bien, je vis dans la capitale de mon pays et tout cela, et nous avons tout. Alors, il est difficile d'avoir des épreuves. Non, chers amis, il y a des épreuves là-bas. Peut-être nous sommes orgueilleux. Eh bien, c'est votre initiation, travailler avec l'orgueil. Vous pouvez me dire, mais cher instructeur, mais il est très difficile d'avoir l'initiation ici parce que ma ville est très très pauvre. Et nous n'avons pas à peine quelque chose de l'aliment, de travail, etc. Eh bien, chers amis, c'est votre initiation. Surpasser ces problèmes, c'est votre initiation. D'accord? Notre vie, intensément vivée, est notre initiation. Là-bas sont les épreuves. Là-bas sont les tests. L'épreuve de l'air dans le monde astral, c'est nous voir tomber dans un abîme très fond, sans fond. On rêve que l'on tombe dans un précipice. Si on pleure, si on crie, si on se désespère, il est sûr que dans le monde physique, nous devons encore apprendre dans la relation que nous avons avec les choses matérielles et les personnes. Nous devons apprendre réellement à aimer. Voilà ce qui nous manque beaucoup. Le visage humain, 12 fangs, représente l'élément E et symbolise l'intelligence dont nous avons besoin pour nous adapter aux différentes circonstances de la vie. Nous adapter. L'épreuve de feu, c'est la sérénité et la douceur du caractère. L'épreuve de l'air, c'est le détachement des choses et des personnes. Et l'épreuve de l'eau, c'est d'être comme l'eau. Si on la met dans un récipient circulaire, elle prendrait la forme de ce récipient. Si on la laisse couler dans un ruisseau, elle prendrait la forme du lit de celui-ci. Si on la met dans un verre, elle prendrait la forme du verre. Elle s'adapte. Voilà l'épreuve de l'eau. Nous devons apprendre à nous adapter aux différentes circonstances de la vie. Si nous voulons devenir des initiés, si nous voulons être sur le chemin de la vérité, si nous voulons passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à l'immortalité, nous devons absolument réunir ces caractéristiques fondamentaux pour devenir débutantes. L'initiation, ce n'est pas quelque chose de fantastique, je le répète. Nous devons apprendre à nous adapter aux différentes circonstances de la vie. L'initiation ne peut pas être achetée, je le répète, ni vendue. L'initiation, c'est apprendre à vivre toutes choses intensément à chaque moment, à chaque instant. Apprendre à vivre comme l'eau. Si nous n'avons plus d'argent, eh bien, apprendre à vivre sans argent. Si nous perdons notre travail, n'est pas se désespérer, n'est pas sombrer. Nous devons pas succomber devant les circonstances de la vie. Apprendre à vivre ces moments, même sans argent. Voir comment nous devons faire, nous démener et d'avoir du courage. Nous avons une anecdote. Une personne nous a vraiment étonné. C'est un voisin. Elle est incroyable. Elle ramasse des bouteilles en plastique, d'accord? Elle ramasse des bouteilles en plastique pour les vendre. Elle rassemble des cartons, elle coupe des petites pochettes, elle rassemble du cuivre. Elle a réussi à payer de cette manière les études de son fils en vendant tout cela. Et son fils a pu écrire sa thèse et avoir sa titularisation grâce à toute cette qu'elle fait. Elle dénude des câbles. Cette femme âgée, très âgée, fait preuve de tant de courage et de détermination pour aller de l'avant dans la vie. Et c'est admirable. Elle est tombée. Elle s'est fracturée le pied. On l'opérait. Et aussitôt, Remisel s'est mise à travailler dans un magasin. Elle est vraiment admirable, surprenante. Elle balaye la rue. Elle est trottoir devant les maisons. Elle est là 60 ans. Elle est toujours là, avec cette grande envie de vivre, avec des grandes et extraordinaires aspirations pour la vie. Il y a des gens près de l'initiation qui ne connaissent pas les écoles pseudo-ésotériques ou pseudo-occultistes, qui ne connaissent pas aucun livre, aucun auteur, aucune école physique, qui ne se donnent pas de noms pompeux. Ces personnes ne parlent pas de leur vie intérieure. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à vivre. Toujours en avant, toujours en avant. Sans peur, en s'adaptant à la circonstance de la vie. Voyez-vous? Si nous avons de l'argent, eh bien, vivons avec. Bien sûr, la vie ainsi est plus facile, mais nous devons aussi apprendre, en ayant de l'argent, à avoir un bon rapport avec lui. Parce que l'argent peut nous faire devenir orgueilleux, vaniteux, et nous pouvons commencer à nous entendre être plus importantes que notre famille, qui est pauvre, qui reste pauvre. Voyez-vous? Alors, là-bas, il y a des preuves aussi. Sans argent, il est très difficile de vivre. Très difficile, comme il est dit dans la Bible. Il faut apprendre à vivre aussi bien pendant le temps des vaches maigres que pendant le temps des vaches grasses. Il faut apprendre à vivre à la ville comme à la campagne, là où nous sommes. Nous s'adapter, bien sûr, toujours aspirer à une meilleure situation pour notre famille. Mais il faut apprendre à vivre sous la pluie ou sans pluie, dans un climat froid ou dans un climat chaud. Tout nous gêne aujourd'hui. Tout nous dérange. Nous ne supportons plus jamais rien. Oh, il fait froid, mon Dieu. Oh, il fait chaud, mon Dieu. Ainsi, je ne peux pas vivre. Je préfère autre situation. En réalité, nous exclamons, n'est-ce pas? En réalité, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et si nous ne changeons pas intérieurement, l'extérieur nous donnera toujours des problèmes. Nous devons avoir la tête humaine du sphinx, nous transformer en sphinx. Nous devons être des sphinx et cette tête, c'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre à vivre. Cette épreuve de l'eau, dans le monde astral, dans le monde de l'éternité, dans le monde des rêves, c'est de nous trouver dans un océan sans limite. On est tout seul, pas un bateau, pas une île, personne. Il n'y a que l'océan. Et nous sommes dedans, au milieu, tout seul. Si nous pleurons et si nous nous désespérons, nous ne passerons pas l'épreuve de l'eau. Par contre, si nous restons sereins, si nous nageons sans nous fatiguer, nous passerons cette épreuve merveilleuse avec succès, et ce sera le reflet fidèle de ce que nous avons appris à faire dans le monde physique, dans le monde tridimensionnel. Il y a un problème? Nager. Nager. Il y a une situation à l'école? Nager. Nager. Oui. Nous avons une situation familière? Très difficile? Nager. Nager. Nous s'adapter. D'accord? La quatrième vertu, c'est d'avoir les corps du taureau pour ouvrir le chemin dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Eh bien, se développer la ténacité pour pouvoir tirer parti des difficiles adversités de la vie. Il ne s'agit pas seulement de nous adapter aux circonstances de la vie. pour la preuve de l'eau. D'accord? Nous devons réussir à cela. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir tirer parti de ces adversités. Tirer parti des choses de la vie, des problèmes et des difficultés de la vie. Tirer parti. Il ne faut pas seulement s'adapter, mais il faut savoir en tirer parti. C'est l'épreuve de la terre. Tirer parti des adversités de la vie. Heureusement, le Maître Jésus nous donne la clé. Il nous montre le chemin à suivre. Dans un de ces versets qui se trouve non pas dans la Bible, mais dans ces livres qu'on appelle la Torte des Apocryphes, il y a une anecdote extraordinaire. Les apôtres, ainsi que le Maître Jésus, se promenaient et ils aperçurent les cadavres de composition d'un chien. Ils aperçurent les cadavres en décomposition déjà d'un chien. Tous les apôtres firent sans les grimaces étaient dégoûtés par le spectacle. Le dur était insupportable. La seule personne qui vit dans ce spectacle une chose positive, dans toute cette pourriture, est le Maître Jésus qui leur dit alors: Quelles sont belles les dents de ces chiens, qu'elles sont blanches. Parmi toute la pourriture, il a vu les positifs du négatif. Il y a eu la capacité de tirer parti de ces situations désagréables. Il était serein, tranquille. Les problèmes font partie de la vie, mes chers amis. Toujours, toujours, pour toujours. Une vie sans problème ne serait pas la vie. Sans problème, la vie n'existerait pas. Les problèmes ne finiront jamais. Si vous pensez qu'en devenant initié, vous n'aurez pas de problème dans la vie, c'est une fantaisie. C'est une erreur. Si les problèmes arrêtaient d'exister, il n'y aura plus de vie. Tant que nous vivons, tant que nous serons encore physiques, les problèmes existeront. Nous ne pouvons pas rêver paresseusement d'un monde sans problème, avec des fantaisies sans problème. La vie est le gymnase qui nous permet de nous autoconnaître, nous donne la possibilité de nous autodécouvrir. Si nous sommes alertes comme les vigiles en temps de guerre, et si nous appliquons les principes gnostiques, bien sûr, durant les moments très difficiles, nous pourrons avancer beaucoup plus. Cette épreuve dans le monde astral, dans le monde des rêves, c'est de se voir entre deux montagnes qui se rapprochent et qui menacent de nous écraser. Si on reste serein, c'est que l'on aura réussi à boire les copes du taureau. Il faut savoir rester serein autant dans le monde physique en tirant parti des difficultés de la vie que dans le monde astral avec cette épreuve de la terre, puisque ce serait le reflet de ce que nous faisons dans la vie physique. D'accord? Chers amis, nous devons ainsi avoir les quatre qualités de Sphinx. Nous transformer en Sphinx. Lorsque nous possédons ces quatre qualités, nous pouvons avoir le nom de Chela. Et Chela est un disciple, un lanu. Chela et lanu sont des synonymes. C'est l'aspirant à la loge blanche. C'est un être. C'est devenir un disciple de la loge blanche. Et si nous sommes disciples de la loge blanche, c'est que nous avons déjà la qualité morale pour prendre ce chemin, pour prendre ce sentier qui peut nous mener de la lumière à la sagesse immortelle. Si nous n'avons pas ces caractéristiques, si nous n'avons pas ces qualités, c'est difficile à dire, mais ce sont les paroles du Maître Jésus. Nous sommes comparés à des petits cochons, des porcs. Et le Maître Jésus nous dit, ne donne pas de perles aux cochons, ils les piétineront. C'est la vérité, parce que si nous ne sommes pas préparés, si nous ne méritons pas les connaissances, nous avons l'adultère, nous avons nous moquer de lui. C'est notre situation intérieure. C'est pour cela, chers amis, je le répète, qu'il est très important d'avoir ces caractéristiques du Sphinx. La connaissance transcendantale, la connaissance supérieure, si on ne change pas, si nous n'avons pas cette détermination requise, ces morales supérieures, Eh bien, nous piétinons cette connaissance. Nous la déformons, nous la transformons, nous la commanderons à notre convenance. Ces paroles de Jésus-Christ sont dures, mais vraies. Sans les vertus des quatre caractéristiques du sphinx, les enseignements sacrés seront toujours piétinés. Nous finirons par l'utiliser pour le mal et l'adapter à nos égoïstes, nos idées égoïstes. Dans la flûte enchantée de Mozart, nous allons trouver un mot, ce dont nous avons besoin pour entrer sur ce chemin de l'initiation. Nous vous recommandons beaucoup l'œuvre de la flûte enchantée de Mozart, car dans cette belle œuvre sont décrites toutes les vertus nécessaires d'avoir pour entrer sur le chemin initiatique. Alors, vous le voyez, nous avons beaucoup de lumières, des enseignements, des indications dans le chemin de notre vie, dans les livres sacrés, dans les cultures anciennes, dans les pyramides et dans les œuvres des maîtres, comme la flûte enchantée. Nous sommes à l'Institut culturel Quetzalcoatl, écrit en description de la flûte enchantée dans l'initiation et de livrer sur notre website pour que vous puissiez la télécharger et la lire en écoutant cette œuvre merveilleuse. Chaque pièce de cette œuvre de la flûte enchantée est expliquée dans ce livre par vos amis de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Bien sûr, complètement free, sans payer rien. Eh bien, dans cette œuvre, nous avons Pamina, qui apparaît et elle représente la femme initiée, toutes les femmes qui sont ici présentes, qui nous écoutent, et qui aspirent à être cette Pamina. Pamina représente la femme qui cherche l'initiation, qui cherche le chemin, et qui ne se satisfait pas de vivre seulement, en naissant, en grandissant, en vieillant, etc., en se mourant, non. Elle désire chercher quelque chose de différent. Ces femmes qui aujourd'hui assistent à ces cours sont des aspirantes. Elles sont Pamina, la voix de Pamina, une femme révolutionnaire, une femme modèle, une femme qui aspire à la transformation. Elle se déclare au prince Tamino, qui est sur le point d'entrer dans le temple des mystères pour passer les quatre épreuves des quatre éléments dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est extraordinaire. Écoutez cette œuvre de Mozart, la flûte enchantée. Elle dure douze heures, mais elle est fantastique. Je suis sûr que vous pouvez la trouver dans le web, dans l'internet, avec des sous-titres en français pour les comprendre complètement. Dans la flûte enchantée, et sans payer rien. Dans la flûte enchantée, arrive Pamina, elle essaye de le voir, elle était séparée de lui et ne le trouvait pas. Elle ne l'avait pas vu, d'accord, dans son parti de cette œuvre. Elle nous dit ce dont nous avons besoin, justement, en ce moment-là. Nous allons écouter un morceau de cette œuvre merveilleuse où Pamina donne la clé de l'initiation. Faisons très attention à ce qu'elle dit. Je ferai des pauses pour avoir l'explication, une petite explication, la traduction, pardon. Eh bien. Pamina, Tamino, quel bonheur, ma Pamina, quel bonheur. Voilà les portes de l'épouvante qui me menacent avec la misère et de la mort. J'y serai toujours à tes côtés. Je te guiderai. L'amour me conduira. Il sèmera des roses sur le chemin, puisque les roses et les épines sont toujours unies. Si tout est toujours de la flûte enchantée, elle nous protégera sur le chemin. Dans une heure magique, mon père l'a taillé du plus profond d'un chêne millénaire, parmi des éclairs et des coupes de tonnerre, des tempêtes et du rayon. Nous traverserons Eros, race au pouvoir de la musique, dans la sombre nuit de la morte. Heureux, nous traverserons, grâce au pouvoir de la musique, la sombre nuit de la mort, de la mort, de la mort. Pamina, cette femme révolutionnaire, cette femme guerrière, nous donne la clef. Et cette clef, c'est la mort. La force qui peut réellement nous transformer. C'est la mort, chers amis. Celle qui peut nous placer sur le chemin de l'initiation, parce que l'amour les peut toutes. L'amour entre partout. L'amour banque tout. Nous terminerons cette conférence avec les paroles du maître Samael qui dit Émer. Qu'il les rende émer. Seulement les rend aiment, peuvent et savent aimer. Chers Samirs, merci beaucoup pour votre attention. La bibliographie que nous vous suggérons, c'est d'écouter La flûte enchantée de Mozart avec ses sous-titres en français. Je suis sûr que vous pouvez la trouver sur l'Internet. La flûte enchantée et l'initiation, c'est libre, se trouve sur notre website www.samaelinos.net. Nous vous recommandons aussi, bien sûr, les livres merveilleux et extraordinaires qui sont La Grande Rébellion, la psychologie révolutionnaire par les maîtres Samael et Homéor pour connaître et comment, quelles sont les caractéristiques que nous devons conquérir et comment les conquérir pour devenir préparés et développer en nous les caractéristiques pour réussir, pour trouver l'initiation qui est apprendre à vivre notre vie intensément. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. Ayez-vous Un très bon week-end. À bientôt.